sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Anna Sigalevitch et Philippe Noisette se font face d'une première pour vous, Philippe. Bienvenue. Et une première dispute 100% danse que nous programmerons désormais régulièrement les lundis soirs. À notre affiche, Mr. Gaga sur les pas d'Oana Rin, c'est le film de Tomer Eman qui sort en DVD chez Blackout. Georges Balanchine, hommage à Violette Verdi, un programme sous la direction musicale de Kevin Rhodes à l'Opéra National de Paris au Palais Garnier. On évoquera aussi plus rapidement Plaisirs Inconnus du Ballet de Lorraine, c'est en tournée. Et un autre DVD, l'histoire de Manon, la soirée d'adieu d'Aurélie Dupont chez Bel Air Classique. Vers 21h20, Lucille Comeau nous entraînera vers son petit salon pour débattre d'un sujet en lien avec le champ artistique dont nous parlons ce soir. Et puis elle passera en fin d'émission à écouter la Louis Arène pour Le Chien, la Nuit et le Couteau, un spectacle du Moonstrom Théâtre d'après Marius von Mayenburg. Bien sûr, des cadeaux à gagner encore ce soir grâce au jeu de la dispute. Des invitations pour l'exposition Les Insoumis de l'art moderne à voir jusqu'au 31 décembre au musée Medjiski à Paris. Et nous ouvrons cette émission avec la sortie en DVD donc du film de Tomer Eman, Mr. Gaga, sur les pas d'Oad Naharin, consacré au chorégraphe israélien.
To mourn a big loss and to dance, they don't contradict each other. It's like they live in the same space. I really believe in the power of dance to heal.
And now that you're tired, keep going. And let's say together. Piece of cake. Piece of cake. Keep going. Katanara. Katanara. Piece of cake. Keep going. Piece of cake.
Une première question, Philippe Noisette, avant de parler du film véritablement. Est-ce que vous avez vu beaucoup de spectacles signés Oad Naharin ?
J'en ai vu pas mal, mais je n'ai jamais vu Oad Naharin danser. Ah. Et c'est le grand plaisir de ce film, de ce documentaire, c'est qu'on peut voir des images assez rares où on voit Naharin sur scène.
Mais alors, vous en avez vu beaucoup, beaucoup en France ou beaucoup plus
en
à l'étranger ?
En France, à Montpellier.
Lyon.
À Lyon, bien sûr, oui. Essentiellement en France.
Essentiellement en France. Anna Sigalevitch.
Alors moi, non, je n'en ai pas vu beaucoup. J'ai découvert donc la chorégraphie de Oad Naharin l'année dernière à l'Opéra de Paris avec Sri, qui a été un grand choc, je dois dire. Vraiment, il y avait des années que j'avais pas été à ce point emballée par un spectacle, par cette. Alors. Il appelle ça le gaga, mais bon, le gaga, en fait, c'est pas la chorégraphie et le gaga, ce sont deux choses différentes. Le gaga, c'est vous me regardez.
Oui, attentivement.
Voilà.
Si vous enchaînez tout de suite, allez-y.
Je peux.
Bah, maintenant.
D'accord. Le gaga, en fait, c'est une façon de ressentir son corps, d'être à l'écoute de son corps et de passer par l'écoute de son corps pour ensuite être dans le mouvement. Mais ça n'a rien à voir avec le type de chorégraphie finalement que propose Oad Naharin.
Non, mais je suis content que vous parliez de cette question du gaga parce que c'est quand même le titre, hein, c'est l'accroche,
oui.
Hein, Mr. Gaga. Et ayant vu le film, je n'ai pas compris ce que c'était, moi. Ou alors, effectivement, quelque chose comme vous venez de le dire. qui peut quand même être repris à son compte par bon nombre de chorégraphes.
Absolument. Et enfin, c'est le cas d'ailleurs.
C'est voilà, mais enfin bon, cette estampille, moi, m'a un peu gêné, donc ça m'a un peu brouillé au départ la vision de ce film pour moi. Mais c'est pas l'essentiel, moi. Comme vous savez, je suis pas un grand spécialiste en danse, Philippe Noisette, mais je connais où j'ai vu des pièces et des ballets quand même de la plupart des chorégraphes en activité depuis une trentaine d'années, on va dire. Mais c'est vrai que je n'ai pas jamais vu le travail de Hannah Arendt, que j'ai donc raté en France. Et à cet égard, moi, je suis pas sûr d'avoir une vision très précise de son travail ayant vu le film. Parce que c'est ma première frustration, vraiment, les extraits sont extrêmement courts.
Alors, c'est un choix, hein. Ouad Naharin le dit lui-même. Avec ce réalisateur, il y avait visiblement une vraie confiance. La seule chose qu'il a demandé, justement, au réalisateur, c'est de ne pas diffuser des extraits qui soient plus longs que 2 minutes ou 1 minute 30, ce qui donne effectivement à chaque fois une impression assez fugace.
Ouais, c'est souvent beaucoup moins dans le film.
C'est souvent beaucoup moins, peut-être qu'il a été encore plus loin dans la demande. C'est la seule chose qu'il a exigé. Après, il a offert ses archives incroyables. Oui, c'est assez rare d'avoir autant de matière sur un artiste, hein, qui a maintenant une vraie carrière et qui a un parcours assez étonnant.
Oui, alors parcours, effectivement, il faut en résumer les très grandes lignes. D'ailleurs, ça, pour le coup, si on veut connaître la vie de Oad Naharin, le film est absolument parfait. L'œuvre, c'est compliqué d'y avoir accès. Alors, on va dire, ce serait peut-être presque pour celles et ceux qui ont déjà vu des spectacles, qui ont envie d'en savoir plus sur l'homme. Ça donne envie d'en voir, hein, des spectacles, mais en tout cas, c'est vrai que c'est compliqué de se faire une idée. Les grandes lignes de sa vie, Philippe Noisette ?
Enfant du kibboutz, autour de lui, une famille qui est soit on était militaire dans sa famille, soit on était musicien ou artiste. Il commence la danse assez tard, il est passé aussi par la gymnastique, et il commence la danse à 22 ans.
Ce qui est très très rare. Hein, là.
Voilà, ce qui arrive maintenant, mais enfin, c'est un départ un peu raté, parce qu'on pourrait dire. Et puis c'est quelqu'un qui va bouger assez rapidement, peut-être parce que le pays est trop petit pour lui et pour ce qu'il veut faire. Il part aux États-Unis.
Dans les valises de Martha Graham.
Oui, plus ou moins.
Qui était venue, elle, en Israël, qui a créé la Batsheva Dance Company.
Tout à fait, avec la fameuse baronne Batsheva. Oui, qui part dans les bagages de Martha Graham. Il dira de Martha Graham, elle était amoureuse de moi. Donc quand vous écoutez Naharin, vous vous dites... Il a vraiment une certaine façon de voir les choses.
Ça ne le rend pas extrêmement sympathique. Hein.
Non, pour l'avoir interviewé, je ne vous dirais pas que c'est la personne la plus chaleureuse qu'il soit.
D'accord, mais ça se voit bien dans le film alors.
Voilà, mais il le dit. Ouais, ouais. Quand j'ai regardé le documentaire, je ne me suis pas trouvé très sympathique non plus. Son parcours fait que il arrive à New York, qui est un peu une mecque de la danse à cette époque. Il arrive avec.
On est quoi, début des années 60?
Oui, tout à fait. Ouais. Et il arrive avec ce physique qu'il décrit lui-même comme méditerranéen, c'est-à-dire qu'un brun avec des cheveux bouclés, une certaine allure, une certaine façon de bouger, qui évidemment va séduire.
Et féminité, dont il se revendique pleinement aussi. Pour compléter le tableau. C'est vrai qu'il est à tomber par terre de beauté quand même à ce moment-là. On est d'accord là-dessus. Ouais. Anna, Lucille. Ouais, près du micro sera encore mieux. Donc un petit oui, mais enfin bon, on y reviendra pour l'explicité.
Voilà. Et ces débuts à New York sont des débuts compliqués. Et on voit des images assez étonnantes. Je pense qu'il se produisait devant trois pelés, un public assez restreint. Il va faire la rencontre d'une femme qui est une danseuse qui, elle, est assez connue, qui est une des stars de la compagnie d'Elvin Ailey, qui s'appelle Marie Cajouara, et qui, en fait, va accepter de l'accompagner dans cette idée de créer une compagnie, de créer quelque chose à deux, en se mettant parfois en avant, en se mettant parfois en retrait. C'est sans doute la plus belle part du film, c'est cette histoire à deux.
Alors, dont il raconte, comme ça, très simplement, un jour, j'ai vu la plus belle femme du monde, et naturellement, elle est devenue ma femme. C'est un peu... Non, je résume, mais c'est quand même ça qu'il raconte.
Oui.
C'est vrai, mais Anna Segalevich.
En même temps, franchement, on le croit parce que il a un tel charisme, il a un charisme absolument extraordinaire. Et puis on sent que c'est quelqu'un d'hyper doué pour tout. En fait, il y a une archive qui est édifiante, qui date de 69, où on le voit bouger. Alors comment décrire ça, une espèce de vague, de smurf, enfin en tout cas d'acrobatie qui paraissent.
C'est de la breakdance avant l'heure.
Voilà, de la breakdance avant l'heure.
Non, mais c'est vrai.
On a l'impression qu'il a pas d'os, qui peut bouger comme un serpent absolument. Dans tous les sens. Là, on comprend tout de sa chorégraphie d'ensuite. Donc, il est irrésistible, même la façon dont il joue de la guitare dans une baignoire. Enfin, c'est Mick Jagger, quoi. Il a une voix sublime. La façon dont il bouge. Moi, il m'a même fait penser, je vais vous dire, peut-être que c'est un petit peu exagéré, mais à Chaplin, je trouve, dans sa façon d'être complètement désarticulé et d'avoir d'être doué pour tout, d'être doué pour bouger, pour entendre la musique, pour chanter, pour danser, pour créer. Enfin, c'est quelqu'un qui a de l'or dans les doigts et dans son corps. Il y a quelque chose de complètement naturel et de fluide qui se dégage de lui, qui est évident. Et donc, sympathique ou pas sympathique, on veut bien croire que Mary Kajiwara ait été séduite par lui, en effet.
C'est vrai qu'avec elle, du coup, la notoriété se fait plus grande, puisqu'elle est une figure importante de la scène de la danse new-yorkaise à ce moment-là, et que donc, évidemment, on va la voir danser, et forcément, du coup, on découvre les travaux à ce moment-là d'Oana Harin.
Absolument. Et alors, ce qui est très étonnant dans ces archives d'avant, c'est qu'on a presque l'impression, tellement les archives sont belles, il y a aussi de très belles archives, il y a une archive très forte qui date de 73, où il est dans l'armée israélienne, donc lui, il est là pour un peu créer, pour chorégraphier, pour divertir les troupes, entre guillemets. Et c'est la guerre de Kippour, et on entend des tirs au loin. Et ces archives sont tellement fortes qu'on a l'impression qu'il avait conscience de ce qu'il allait devenir et qu'il travaille pour sa postérité. C'est-à-dire qu'il a une
c'est
façon
possible,
presque
hein.
de...
Ouais, d'autres avant lui, Patrice Géraud, pour ne pas le citer.
Oui, mais c'est étonnant.
Comme ça toute
c'est vrai,
sa
quand,
vie.
Quand il a interviewé très très jeune Patrice Géraud, on sent qu'il travaille pour sa vie.
Il s'en est jamais caché.
Absolument. Et donc il y a ça aussi chez Oana Harin, moi qui d'ailleurs ne me gêne en rien. Et puis effectivement... il a réussi. Donc ce film n'est pas une surprise. Je veux dire, ça ne m'étonne pas qu'il ait accepté qu'un film sur lui existe aujourd'hui.
Le retour en Israël, Philippe Noizet, pour avancer un peu dans le temps avec
le retour en Israël pour prendre la direction de la Batsheva, justement. Il raconte une chose dans le documentaire qui est assez drôle. Il disait les premiers spectacles de la Batsheva, quand j'arrive, il y avait 5-10 personnes. Un peu âgé, on dansait un peu des danses folkloriques, voilà. Et évidemment, il se dit qu'est-ce que je fais là ? Et il se dit aussi il y a un trésor, puisque cette compagnie, c'est aussi une école. Et c'est, à mon avis, c'est ça qui l'intéresse, c'est de créer et de créer aussi par le biais de la transmission assez rapidement. Voilà, c'est une chose. Quand vous parliez du Gaga tout à l'heure, le Gaga, on peut dire, c'est une sorte de boîte à outils pour lui dans son esprit. Et la boîte à outils, ça permet à des danseurs professionnels ou des jeunes danseurs ou à des non professionnels de les utiliser. C'est un petit peu ça le grand discours de Narine aujourd'hui.
Qu'on voit aussi, c'est vrai que j'ai oublié cette rencontre aussi avec Maurice Béjart, pareil, c'est une sorte de flash quand même.
Un flash bref.
Un flash bref qui dit que ça l'amène à vivre la pire année de sa vie. Donc lui aussi, il est flingué en une phrase, Maurice Béjart. Après Martha Graham, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que du coup, ne le connaissant pas, moi j'ai l'impression de voir, vous savez, ce chef-d'œuvre qui s'appelait Dancing Machine avec Alain Delon qui jouait un maître de ballet. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Le côté, la caricature du maître de ballet tyrannique. Effectivement, on voit des danseurs qui expliquent à quel point il y avait toujours un qui devait quitter la répétition ou le moment de création parce que c'était insupportable, parce qu'il était odieux, etc. Ça, quand même, je trouve que ça renforce une certaine idée parfois caricaturale du monde de la danse, quand même, Philippe Noizet.
Oui. Tout à l'heure, Anna parlait du charisme de Darin. Moi, je parlais un côté gourou.
Oui. Moi, voilà, j'aime pas les gourous. Ça, voilà. J'ai pas rien.
Bon. Voilà, on peut avoir cette impression-là. Il est comme ça. C'est assez cash. Le documentaire ne fait pas l'économie de ces moments-là, de ces moments de grâce, et puis aussi de ces moments où on se dit. Pas un salaud, mais enfin, il est quand même vraiment, vraiment dur à vivre. Et voilà.
Anna Segalevitch ?
Oui, alors moi, je trouve que le film est plus tordu que ça, en fait. Parce que la relation de confiance dont il parle avec ce réalisateur,
Tomer Eman,
Oana Harin, je vous avoue qu'elle m'étonne un peu, parce que je trouve que le film est monté d'une façon assez sentencieuse, je dois dire. C'est-à-dire qu'au départ, alors, clairement, il y a l'idée de une vie, une œuvre. Portrait d'un grand homme. Et ce qui se passe dans sa vie est illustré par les chorégraphies.
Ouais, c'est vraiment...
C'est un petit peu lourdingue. Il y a un côté explicatif. Psychologiquement, il y a la guerre. Donc après, on voit les danseuses trembler. Et voilà,
bon. C'est très illustratif.
C'est très illustratif. Ouais. Voilà. Bon, après, pourquoi pas, dans toute la première partie, ça se tient, c'est bien fait avec ses archives passionnantes. Pourquoi pas ? Après, il y a, je trouve, la volonté d'écrire et de raconter une histoire. Donc, le côté sans filtre, pas géographique, pourquoi pas, c'est intéressant.
Oui, c'est bien.
Mais, pour moi, c'est pas exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que, à partir du moment où il y a cette sa première femme qui le suit en Israël, on nous explique qu'elle était assez malheureuse en Israël. Là, c'est illustré par des moments où elle est au lit, où elle est pas bien. Cette femme va tomber malade, gravement malade. Elle va même mourir. Bon, c'est fait d'une façon, je trouve, pas tout à fait claire et pas tout à fait saine, la façon dont c'est mis en scène. Et alors, on a la dernière partie du film que moi, je trouve carrément scandaleuse. Je trouve déplaisante, que je trouve malsaine et que je trouve profondément sentencieuse. Oui, mais c'est les 10 dernières minutes du film, certes, mais c'est très important, les 10 dernières minutes. Le film se termine comme ça et on termine sur une image de Ohad Daharin. Donc, je vais expliquer un petit peu. Il est avec une autre jeune femme et il a un petit enfant avec cette femme. On assiste à une séance de répétition où l'enfant, la petite fille est là, donc elle joue, etc. Puis après, c'est le moment de travailler. Donc, l'enfant doit partir avec la nounou. C'est normal. Et là, l'enfant crie parce qu'elle veut rester avec les parents. Normal aussi. Enfin, je veux dire, toutes les familles connaissent ça. Et la mère, donc qui s'appelle Eri, la nouvelle femme, est mal parce que l'enfant pleure, etc. Et elle quitte les répétitions à moitié qui est danseuse dans la compagnie, elle quitte la répétition à moitié en sanglotant. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Et le film finit comme ça.
Et le film termine comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? La création plus forte que tout, qu'il est généreux comme chorégraphe, mais que c'est un peu un salaud dans la vie.
Oui, il est adorable avec sa fille en plus. Hein.
Oui, qu'il a quoi ? Parce que moi, je trouve que c'est complètement anecdotique et en même temps que ça raconte des choses. Je trouve ça je trouve ça très très dommage que le film se termine de cette façon-là.
Oui, parce qu'on ne sait pas si ça raconte des choses sur Ohad Daharin ou sur le réalisateur.
Absolument. Ça m'a beaucoup dérangé et agacé, je dois dire.
Philippe Noisette.
Oui, c'est vraiment pas la scène que je préfère. on pourrait facilement la couper au montage. Elle ne raconte rien, elle raconte beaucoup, effectivement. J'ai envie de dire que j'ai été tellement nourri par ce que j'ai vu au départ. Et on en a vu des films de danse, des documentaires. Et c'est vrai que c'est quand même, c'est assez compliqué de cerner un homme et une œuvre. Qui plus est un homme qui, là, n'est pas forcément le bon client par excellence. Hein. Il est passionnant et en même temps, quand on lui parle d'Israël, quand on lui parle de son influence, l'influence qu'il a, parce que Naharin, c'est quand même toute l'histoire de la danse en Israël et des dizaines de chorégraphes ont suivi le cursus de la Batsheva et autres.
Et de danseurs énormément aussi.
Exactement. Donc c'est encore lui. À ce moment-là, c'est encore lui. Je pense pas que ça ne le rende pas plus antipathique qu'il peut l'être, j'ai envie de dire. Mais on dépasse cela parce qu'on comprend quand même que il y a eu des moments un petit peu durs dans sa vie, qu'il essaye toujours de se mettre aussi de penser un petit peu en termes de territoire. Il dit je ne fais pas de la danse israélienne, je fais de la danse. Et je n'ai pas une influence sur la danse israélienne, j'ai une influence, si j'espère, j'en ai une, sur la danse tout court.
Comme il a raison de dire cela.
Oui, tout à fait.
Lucille, comment vous avez vu ce film ? Peut-être commentaires et questions à nos invités, critiques ?
Alors, moi, je connais vraiment rien du tout à la danse, donc j'ai vraiment vu le film comme un film. Et de ce point de vue, je trouve que la seule scène intéressante, c'est précisément la dernière, parce que enfin, un point de vue et de la mise en scène dans un documentaire qui est vraiment extrêmement lisse. Enfin, moi, je vois pas ce qu'il y a de pas unilatéral là-dedans. C'est extrêmement chronologique, c'est sa voix off, c'est des gens qu'il aime autour de lui qui racontent des choses qu'il aurait pu prendre en charge dans sa propre voix. On a absolument que son point de vue, à la fois sur sa vie, admettons, et sur son œuvre. Par ailleurs, vraiment, les extraits de ses chorégraphies sont extrêmement courts. Moi, ça me donne aucune idée de ce qu'est son œuvre. Il y a de la musique par-dessus. Alors ça, je me suis posé la question. En fait, c'est pas de la musique intradiégétique, c'est de la musique qui est rajoutée par-dessus les scènes de danse, qui, je pense, pour la plupart, sont muettes. Enfin, je sais pas comment on dit. Ont pas de bande sonore.
En tout cas, pas celle-là.
C'est quand même étonnant comme choix. En plus, petit piano un peu mièvre. Enfin, j'ai vraiment
ça,
trouvé ça étrange comme choix.
C'est la maladie de la première femme, le piano un peu mièvre.
Il y en a tout le temps. Il y a presque tout le temps de la musique sur les scènes de danse. Justement, dans ce côté extrêmement illustratif, on passe d'une explication psychologisante à un extrait de la danse qui correspond. Et c'est la même musique qui fait le lien et c'est quand même assez gênant de mon point de vue.
J'imagine que pour couper, c'est peut-être plus facile de couper des images que de couper la musique qui accompagne les images. Donc peut-être que le réalisateur s'est dit, mettons
une facilité de plus pour ce réalisateur.
Oui, non.
Pensez que ça fait quand même donc du bien, pour résumer et conclure, est-ce que ce film fait du bien à Ohad Daharin ? Vous pensez qu'il amène, il va amener des gens à essayer de découvrir encore plus son travail?
Écoutez, vous savez, le film était un incroyable succès en Israël, était aussi un succès en France.
En France, aussi,
parce qu'il est sorti comme ça, je crois, au mois de juin. Oui, ça.
Il y a un désir de danse.
Complètement. Ouais, non, je crois qu'il y a un désir de danse. Il y a cette scène qui peut-être la scène qui me gêne le plus quand on le voit avec des avec une série de d'amateurs en train de donner des clés de ce qu'ils sont gaga style. c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais ça fait tout ça fait un homme qui m'a l'air beaucoup plus compliqué que ce que le film me montre. Mais c'est un autre film peut-être à imaginer.
Mr. Gaga sur les pas d'Oad Naharin. Le film de Thomas Herriman est sorti donc en DVD chez Blackout.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Georges Balanchine, mais aussi du ballet de Nancy et d'Aurélie Dupont. Avant cela, nous suivons Lucille Como dans le Petit Salon. Chère Lucille, ce soir, on danse dans les salons.
Oui, en cette rentrée. Non, dans les musées. Vous le faites exprès.
Dans les musées.
Je vais planter mes accroches.
Et dans votre salon aussi.
Dans mon salon, on danse pas tellement, non. Je regrette. Mais on danse dans les musées, et ça, c'est pas nouveau. Mais depuis quelques mois, c'est quand même assez spectaculaire. Il y a d'abord des expositions. Il y a 15 jours, a ouvert dans la petite galerie du Louvre une exposition intitulée « Corps en mouvement, la danse au musée », dont les commissaires sont Jean-Luc Martinez, qui est président du musée du Louvre, et le chorégraphe Benjamin Millepied. Et cette exposition entend livrer une vision historique des conventions de la danse en proposant différentes œuvres qui représentent des mouvements. À Lyon, depuis un mois, on peut voir à l'espace Confluence une exposition intitulée « Corps rebelle » sur les avant-gardes chorégraphiques, à travers moult films, des entretiens avec des danseurs, beaucoup de systèmes vidéo immersifs. Certains critiques sont assez dubitatifs d'ailleurs face à ces expositions. À Libération par exemple, Eve Beauvallet trouve que l'exposition lyonnaise est assez fourre-tout et que l'angle danse et société n'en est pas vraiment un. Au Louvre, on s'interroge aussi sur le caractère fort large du concept même de mouvement vague et qui régit l'exposition. Parallèlement à ces expositions, on danse aussi beaucoup dans les musées. Il y a quelques jours, Boris Charmatz présentait, toujours au musée du Louvre, sa danse de nuit dans le cadre du festival d'automne à Paris. Alors pourquoi au Louvre? Il faut retracer rapidement la genèse du projet. Boris Charmatz entendait au départ réaliser une performance hors les murs, mais le contexte sécuritaire a eu raison de cette ambition première. Il a bien fallu trouver un lieu fermé. Le Louvre apparaît donc comme un lieu plus ouvert, moins institutionnel qu'un théâtre, au même titre que la cour du musée des Beaux-Arts ou la friche Balbock à la Courneuve où il a joué quelques jours auparavant. Finalement au Louvre, il y avait beaucoup de monde, difficile apparemment d'avoir une vision totale de ce qui se passait et le son était assez cacophonique. C'est le risque de toute performance de ce type, à la fois plus proche des spectateurs et moins accessible. Pas facile donc de faire rentrer la danse au musée semble-t-il. Est-ce que c'est un lieu finalement qui lui convient? Il y a quelques années, Boris Charmatz à la tête du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne avait écrit un manifeste pour changer le nom de l'institution en musée de la danse, trouvant le terme de musée plus ouvert, permettant, je cite, de rassembler en un seul mouvement le patrimonial et le spectaculaire, la recherche et la création, l'éducation et la fête, l'ouverture à des artistes singuliers et le désir de faire œuvre collective. Il y fait remarquer par ailleurs qu'il n'y a pas de véritable musée de la danse en France. Alors on peut se demander ce que le lieu musée fait à la danse. Est-ce que c'est un écrin qui la met en valeur, lui donne une valeur statique et pérenne, comme l'espère Boris Charmatz, ou est-ce que c'est un dangereux tombeau qui la fige?
Ah, les rapports entre art plastique et danse, c'est une blague récurrente hein, chez les camarades qui s'intéressent aux arts plastiques. Ils ne vont jamais au théâtre, par contre ils vont voir de la danse. Il y a quand même quelque chose, il y a une vraie relation entre ces deux arts, la danse au musée et dans les lieux d'art. Ça fait longtemps que ça existe, Philippe Noisette, en effet.
Oui, tout à fait.
Mais il y a une intensification, comme le fait remarquer Lucille, me semble-t-il.
Oui, parce que si vous regardez en Europe, on a une exposition autour de Pina Bausch à Berlin, on a une exposition sur Rodin et la danse à Londres en ce moment, on va avoir une exposition sur Bax, la Biothèque Musée de l'Opéra. Oui, il y a une espèce de
qui a lieu en ce moment à Monaco sur Bax.
Oui. Alors là, c'est autre chose. C'est un autre versant de Bax. C'est un versant plus dense. Pourquoi les conservateurs d'un seul coup découvrent ce qu'ils avaient peut-être sous les yeux auparavant? Je m'en réjouis. Chaque exposition est différente. Hein. Là, vous avez vraiment cité deux expositions complètement différentes. Il y a un choix, par exemple, à Lyon d'être, comme vous dites, immersif, de s'adresser à un public de façon très très facile. On met un casque sur les oreilles et on est en tête à tête avec un chorégraphe, un danseur. Au Louvre, évidemment, il y a un côté non pas pédagogique, mais il y a un côté quand même très patrimonial. Voilà, on choisit le mouvement plutôt que la danse parce que c'est difficile de montrer de la danse dans les collections du Louvre. Il y en a assez peu, donc montrer le mouvement, on peut montrer à la fois un grand tableau comme la Kermesse de Bruegel, si je ne me trompe, mais montrer aussi évidemment des dessins de Rodin. Ça me semble intéressant. Ça me semble simplement compliqué de faire que les lieux vivent au rythme de la danse. C'est-à-dire sans simplement mettre des projections vidéo ou alors des petites scénettes ou des danseurs. J'ai envie de dire que la plus belle exposition de danse pour moi en ce moment, c'est celle de Tino Segal au Palais de Tokyo, d'une certaine façon.
Lui-même danseur, et qui est d'ailleurs qui est retourné du côté du Palais Garnier pour y faire danser aussi ces situations autrement. Anna Segalevitch, sur cette question.
Oui, mais le musée, ça engage la question de l'histoire. Et la danse, donc, qui est éphémère, elle s'inscrit comme ça dans l'histoire. Elle qui est un peu le parent pauvre un peu de l'histoire de l'art. Et on sent cette envie de laisser une trace de la part des chorégraphes et le désir aussi quelque part d'institutionnaliser la danse en la mettant dans le musée, et le musée aussi qui a peut-être besoin des corps vivants pour se nourrir. Enfin, on sent un désir comme ça, une nécessaire communication, en tout cas le fait de se nourrir les uns des autres. Voilà, ça existait de façon différente. Enfin, on peut parler même des ballets russes au départ, où là, pour le coup, il y avait une coexistence des arts. Ensuite, dans les années 60-70, avec la Judson, avec tous les chorégraphes de que ce soit Trisha Brown, enfin tous ces gens-là qui, là, pour le coup, travaillaient ensemble où les rapports étaient pour eux. Et aujourd'hui, où la danse rentre, elle, au musée pour s'institutionnaliser. Donc, c'est bon, voilà.
Ouais.
Philippe Nozette.
Juste une chose pour dire que ce qui manque très souvent dans ces expositions, et c'est pour ça que je parle de Tino Segal, c'est les danseurs eux-mêmes. Voilà, on se souvient de l'exposition, la grande exposition à Beaubourg, Danser sa vie, où par faute de moyens, visiblement, il y avait un danseur qui faisait une apparition, une espèce de fantôme, ce qui était un petit peu dommage, mais voilà, c'est un autre lieu et un autre espace.
Lucille, comment ?
Je disais aussi qu'il y a quand même des conséquences économiques à ce type de fonctionnement, parce que pour un spectacle, les spectacles de danse ne sont évidemment pas produits par les musées. Donc, quand ils jouent dans les musées, les musées sont pas, ne donnent pas d'argent. Et c'est très cher aussi pour les institutions muséales. Notamment, Tino Segal, ça coûte quand même trois fois plus cher qu'une exposition classique pour le Palais de Tokyo. Donc, il y a des sous aussi, il y a des enjeux financiers derrière.
Le vivant. Ben oui, le vivant coûte cher. Oui. Mais il faut qu'il y ait de l'argent pour ce vivant-là. Tino Segal, oui. Confluence, elle est encore en cours, cette exposition ?
Oui, oui.
Philippe Noisette, oui.
Oui, jusqu'à l'année prochaine.
Bon. Ah oui, janvier ou février, effectivement. Je crois qu'on a fait gagner quelques invitations pour cette exposition il n'y a pas longtemps, dans le jeu de la dispute. Voilà, une occasion encore d'aller à Lyon. Et c'est l'heure de découvrir les recommandations des critiques présents ce soir. Allez, on commence à nouveau avec vous, Philippe Noisette. Plaisirs inconnus. Le titre fait rêver. De quoi s'agit-il ?
Alors, je vais être très bref, parce que c'est un spectacle dont je ne vais pas pouvoir citer le nom des chorégraphes. Ils sont cinq, paraît-il. Je n'ai pas les noms des scénographes, je n'ai pas les noms des musiciens, je n'ai pas les noms des décorateurs. C'est le ballet de Lorraine. Donc, je peux vous donner les noms des danseurs, si vous voulez. Voilà, c'est un concept, hein, vous l'avez compris, qui est de faire un spectacle qui s'appelle Plaisirs inconnus, et de garder l'anonymat sur les cinq chorégraphes. Je crois savoir qu'il y a majoritairement des femmes chorégraphes. Voilà, donc c'est un spectacle réussi. C'est ce qu'il faut dire quand même, c'est l'essentiel.
Dégustation à l'aveugle, pas à l'aveugle, mais à l'aveugle du programme en tout cas.
Exactement. Alors évidemment, quand vous vous trouvez dans la salle, vous vous dites, est-ce que je vais reconnaître un style ? Est-ce que je vais reconnaître une patte ? Alors bon, j'en ai vu quelques-uns, donc je crois avoir trouvé au moins deux noms sur ou trois noms sur cinq. Au-delà de ça, c'est assez compliqué de faire un seul spectacle avec cinq écritures différentes, et ça fonctionne. Paradoxalement, ça fonctionne. C'est peut-être l'un des plus beaux programmes de cette compagnie, le Ballet de Lorraine, qui est une compagnie qui pratique le grand écart depuis pas mal de temps, qui peut travailler avec Cindy Van Acker, avec Shenyo Bengolea, ou faire du Twilight Harp, du Forsythe. Et donc là, dans cette soirée, je pense que l'échantillonnage est assez large aussi. Les âges des chorégraphes m'ont l'air aussi très variables.
Très variables, et donc aux entr'actes ou à la sortie, chacun se demandait, est-ce que tu penses que celui-là, c'est Natel ou Natel. Il y a ce jeu-là quand même, ce plaisir-là aussi.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, c'est un grand plaisir de continuer le spectacle, d'échanger, d'en arriver à penser que peut-être l'ouverture, c'est cette grande dame de la danse américaine. Bon, j'en ai trop dit. Mais bien sûr. Au final, ce qui est le plus important, c'est que le programme est réussi. Le petit concept qui pourrait être un gadget, quand même, il faut bien le dire, hein, c'est un petit peu, on a l'impression que c'est la feuille de saison et on se dit, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Voilà. Mais le spectacle est vraiment une réussite et j'ai eu beaucoup de plaisir à ne pas savoir où j'allais.
Oui, mais vous parlez de la variété de ce programme, Philippe Noisette. Est-ce qu'il a aussi envie d'être représentatif de différentes tendances et de donner un état, un panorama de ce que peut être la danse contemporaine dans sa diversité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de ça aussi?
Plus qu'un panorama de la danse contemporaine, ça serait plutôt qu'est-ce qu'une compagnie qui n'est pas une pure compagnie contemporaine, puisque certains danseurs ont un bagage plus classique ou néoclassique. Voilà, qu'est-ce qu'une compagnie comme le Ballet de Lorraine, qui est aussi un centre chorégraphique national, peut faire, non pas dans la mesure de ses moyens, mais dans la mesure de ses envies. Et là, c'est assez réussi.
Bon, et c'est en tournée, c'est Plaisirs Inconnus. Vous avez quelques noms ou dates sous les yeux?
Oui, on pourra le voir à Nancy début novembre, donc à l'Opéra Nancy et au Festival Instance à Chalon-sur-Saône juste après.
Dont on parlera la semaine prochaine. Oui, parce qu'on parle d'un autre spectacle à ce moment-là. On retrouvera bien sûr les dates et lieux précis de ces Plaisirs Inconnus sur le site franceculture.fr à la page de la dispute. Et puis le choix d'Anna Segalevitch ce soir, c'est un autre DVD.
Un autre DVD, mais c'est à peu près le contraire de du choix de Philippe, parce que moi c'est pour quelqu'un justement qu'il faut voir ce DVD. Et ce quelqu'un, c'est Aurélie Dupont, c'est sa soirée d'adieu. Voilà, sa dernière soirée où elle a foulé le en tant qu'étoile, hein, parce que maintenant elle y est évidemment comme directrice de la danse, mais comme étoile, le sol, le, comment on dit, la scène, pardon,
plancher.
Excusez-moi, le plateau,
plancher.
Du Palais Garnier, avec l'histoire de Manon, de Kenneth MacMillan, qui raconte l'histoire de Manon, donc cette belle et jeune femme qui est en même temps attirée par ce qui brille et qui est déchirée entre son goût du luxe et son amour pour Desgrieux qui lui est pauvre. Donc voilà, donc ça, s'il y a tout un parcours, ça va très bien Aurélie Dupont parce que il y a tout un parcours dramatique en fait. Il y a beaucoup de théâtre dans ce ballet. Ça va de la splendeur vraiment à la déchéance. Et Aurélie Dupont est une merveilleuse actrice, en plus d'être une sublime danseuse. Donc, et puis en plus, ce ballet, c'est pas anodin parce qu'en fait, dans sa carrière, elle a été blessée pendant un moment, pendant assez longtemps au genou, gravement blessée. Et c'est avec ce ballet qu'elle est revenue sur la scène de l'opéra, alors que son avenir de danseuse était assez incertain. Donc voilà, c'est un très très beau moment. C'est la dernière fois qu'on la verra, malheureusement, elle qui a été à mon sens, vraiment une des très 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 grandes étoiles de ces dernières années, qui incarne vraiment l'élégance, l'intériorité. Il y a des gens qui la trouvaient un peu froide. Moi, je l'ai jamais trouvée froide. Je la trouve pudique. Je la trouve très élégante. Je la trouve intérieure, mais qui a brillé autant dans le répertoire classique que dans le répertoire contemporain. Donc c'est précieux de la voir. Puis à la fin, il y a donc évidemment la pluie d'étoiles. Parce que quand un danseur étoile fait ses adieux pour sa dernière soirée, à la fin, il y a des confettis qui tombent comme ça, des cintres. Donc c'est un moment où voilà, l'émotion est palpable et c'est précieux.
C'est Cédric Clapiche qui a réalisé ce film,
c'est ça? Oui, c'est Cédric Clapiche.
Absolument. L'histoire de Manon, la soirée d'adieu d'Aurélie Dupont, c'est donc en DVD chez Bel Air Classique.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et nous poursuivons cette dispute danse, comme ce sera régulièrement le cas désormais, en nous rendant au Palais Garnier, justement, pour découvrir un nouveau spectacle qui met à l'honneur Georges Balanchine, le chorégraphe, danseur, acteur, réalisateur russe d'origine géorgienne. Mort en 1983 à New York, il avait dansé avec les ballets russes de Diaghilev. Il a ensuite été à New York, le cofondateur et maître de ballet du New York City Ballet, l'un des inventeurs du néoclassique, et donc célébré ici en quatre temps, dont une entrée au répertoire avec, alors, c'est le débat du soir, Mozartiana, on ne sait pas comment on doit le dire, mais bon. Donc ça s'écrit Mozart, et puis vous rajoutez Iana derrière, et vous prononcez comme vous le souhaitez. En tout cas, la musique sur ce Mozartiana Tatiana Otiana est de Tchaïkovski. C'est Kevin Rhodes qui dirige l'orchestre de Paris. Karl Lagerfeld signe décors et costumes. Déjà que je rectifie une imprécision, parce que Karl Lagerfeld ne signe décors et costumes que du quartet Brahms-Schönberg, donc l'une des quatre parties de ce programme, au Palais Garnier, dont Anna Sigalevitch commence à nous parler.
Alors c'est une soirée qui est toute en hommage, parce que donc c'est il y a un hommage à Violette Verdi, grande danseuse qui a travaillé pendant 18 ans avec Balanchine aux États-Unis.
Un tout petit film qui est projeté seulement les premières représentations.
Non, celui-là, il est c'est la sonatine. C'est la sonatine qui va être jouée que les cinq premières.
Ça c'est dommage.
Le film dure 5 minutes. Bon.
Oui, mais il est très émouvant.
Oui, il est très beau. Je suis d'accord.
Il est très réussi, je trouve.
Il est simple.
Simple.
Ouais.
On a envie de l'embrasser, cette femme.
Absolument.
Bon, pardon, je vous ai interrompu.
Non, je vous en prie, donc, tout en hommage à Violette Verdi, donc disparue l'année dernière, hommage de Tchaïkovski à Mozart, hommage de Schönberg à Brahms, et aussi, quelque part, hommage de Balanchine à tout le répertoire classique. Toute sa danse est imprégnée de ça. C'est une très belle soirée, je trouve, dans l'ensemble. Il y a des choses que j'ai aimées plus que d'autres. Cette entrée au répertoire, donc, de Mozartiana, je sais pas comment l'appeler non plus, m'a pas paru, franchement, essentielle, cette entrée au répertoire. C'est-à-dire que je trouve que c'est très, très joli, mais c'est relativement conventionnel comme chorégraphie.
Bon, on s'arrête là-dessus, sur Mozartiana. Non, vous avez,
complètement s'arrêter.
Pour faire un aller-retour entre vous et Philippe Noisette, mais alors, développer ces propos.
Alors, sur Mozartiana, Les danseurs de Mozartiana Laura Eke et Joshua Eiffelt et Artus Ravo, qui est premier danseur.
Ça dépend des soirs.
Oui, le soir de la
Gilbert,
première.
Dorothée Gilbert, Mathieu Gagnon et Fabien Révillon.
Alors, le soir de la première, donc c'était Laura Eke et Joshua Eiffelt. Il y a quatre petites jeunes filles aussi de l'école de danse qui sont là en tutu, sur demi-pointe. Les autres sont, les autres filles sont sur pointe. Donc on a des tutus noirs. C'est très élégant, c'est très bien fait, c'est fluide, etc. Mais c'est un peu sans surprise, je trouve. Voilà, c'est une belle partition académique qui est bien dansée. Enfin, le soir donc où j'y étais, qui était bien dansée, elle était très solide, Laura Eke. Les duos étaient un tout petit peu fragiles, je dois dire. Il y avait certaines promenades qui étaient un peu tremblotantes, etc. C'est de la jolie danse, mais pas le style de Balanchine qu'on trouve dans d'autres des ballets dont on va parler ne m'a pas sauté aux yeux. Voilà, c'est joli, mais c'est une bonne entrée en matière.
Voilà. Philippe Noisette.
Oui, il faut dire que c'est l'un des derniers ballets de Balanchine. Donc c'est une pièce, il va mourir en 83, c'est une pièce de 81. Ce n'est pas pour minimiser les qualités de cette pièce, que je trouve, moi, plutôt intéressante. Il y a un côté mini-ballet, d'une certaine façon, où vous avez quelques jeunes danseurs, vous avez évidemment un couple, normalement ça doit être un couple d'étoiles, ou de principal, comme on dit aux États-Unis. Vous avez le danseur qui va faire une gigue, donc un solo. Vous avez des filles... voilà, qui sont mises en valeur. J'aime beaucoup chez Balanchine et dans ce ballet la danse qui se sert, la danse et son décor d'une certaine façon. Il y a très peu de choses, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de grands rideaux, il n'y a pas de couleurs particulières. Et j'aime beaucoup cela. Je trouve que la distribution est assez homogène. Effectivement, Laura et Joshua forment plutôt un couple intéressant. J'adore, vous le savez, j'adore une des danseuses qui s'appelle Ida. Je ne vais pas écorcher son nom parce qu'elle est finlandaise, mais c'est évidemment l'un des espoirs de l'Opéra Paris, Vicky Koski. Et j'aime bien voir une danseuse se révéler dans justement un Balanchine, parce qu'il faut beaucoup d'assurance, faut danser Balanchine. Il faut à la fois énormément de grâce, voilà. Il faut s'amuser et c'est très difficile. Hein, c'est vraiment une danse très technique. J'aime beaucoup cela. Ce n'est pas forcément la pièce que je préfère dans le programme, mais je pense que c'est une entrée au répertoire intéressante.
Et puis c'est vrai que Balanchine, ça permet de voir les danseurs, ça permet, je trouve, de sentir le pouls et la santé de la compagnie. D'ailleurs, ça m'avait frappé l'année dernière dans Thème et Variations, je les avais trouvés pas en forme dans ce Balanchine. Je dis tiens, il y a un truc avec, je les trouvais pas en place. Et là,
c'est du début à la fin, Benjamin Piennepart sans doute.
Je vais pas tirer des conclusions parce que voilà, mais en tout cas, j'avais été frappée par le fait que je les avais pas trouvés très ensemble et très en forme à ce moment-là. Et là, je dois dire que effectivement, on les trouve tous rayonnants et ça permet de voir beaucoup les individualités. C'est vrai que cette jeune fille Ida, comment elle s'appelle, Ida qui, oh mince, zut, aidez-moi, Vikinkoski. Elle on la voit tout de suite, et alors dans le Bram Schoenberg ensuite où elle a un rôle important, c'est vrai qu'elle est absolument rayonnante, elle a un éclat. Elle est sortie très récemment de l'école de danse, hein, je crois que ça fait ça fait 2 ou 3 ans qu'elle est dans la compagnie.
C'est l'un des espoirs. Hein, c'est l'un des espoirs. Alors, je vais parler de la génération Millepied. C'est vrai que Benjamin Millepied a repéré cette danseuse. Hein, il en a repéré d'autres. Il a repéré cette danseuse. Ce programme est un choix de Benjamin Millepied aussi, hein, il faut le dire, parce que c'est la saison Millepied que l'opéra danse. Millepied, son histoire avec Balanchine.
100 Millepied, puisque c'est deux prods.
Exactement.
À part le Kylian qu'on va voir, qui a été ajouté par
Olivier. Tout à fait rajouté. Et le choix de la dernière pièce qui sera Anne-Thérèse Kersmaeker. Oui, c'est normal, il est élevé, biberonné au New York City Ballet, au Balanchine. Hein. On en danse une 20aine de pièces par an. Il y a je ne sais pas combien de pièces au répertoire du New York City Ballet. Donc il avait envie de montrer ça.
Mais il a raison, parce que alors là, passons au second ballet. Pour moi, le grand bonheur de cette soirée, pourtant c'est le plus court, cette sonatine. Alors, double plaisir, au moins, de cette pièce tout d'abord, et puis de son interprète au piano. On parle de danse, mais parlons quand même un peu de musique. Moi, j'étais très, très impressionné par cette pianiste, dont je vais donner le nom ici, Elena Bonnet, Anna Segalevich.
Moi aussi, très impressionnée, et je dois dire agréablement surprise, parce que j'avais entendu cette pianiste il y a 2-3 semaines avec une autre pianiste dans un glass dans Four Movements for Two Pianos qui était donné dans le précédent programme avec dans un programme Justin Peck, et j'avais trouvé ça pas du tout en place, je me dis mais c'est voilà, et là je dois dire qu'en effet cette pianiste moi aussi beaucoup plu. C'était à la fois très en place et en même temps très inspiré, une écoute idéale des danseurs et en même temps sa personnalité qui s'imposait à elle, ce qui est rare je trouve à l'opéra de Paris. Souvent les pianistes accompagnent, se contentent vraiment d'accompagner très en place etc. Mais sans révéler les couleurs. La sonatine de Ravel c'est absolument magnifique et elle en révèle toute la chatoyance. Moi aussi j'ai été très emballée par son interprétation.
Chorégraphiquement, Philippe Noisette, cette sonatine.
C'est un petit, une chose délicieuse. C'est court. Vous avez effectivement toutes les nuances de Balanchine en très peu de temps. Il faut quand même un couple de danseurs à la hauteur. Hein.
C'est vaut mieux.
Voilà, on ne voit que la pianiste, mais on ne peut voir que les défauts s'il y en a. J'aime beaucoup retrouver en plus un couple de danseurs qui nous avait un petit peu manqué, Mathias Eman. Et Myriam Oudbraham, ils sont là, ils sont heureux d'être là. Mathias est vraiment formidable, hein. Mathias Eman est vraiment éblouissant. On parle de musique, il faut parler de la musicalité, c'est quelque chose qui travaille Balanchine depuis le début. Il disait il faut voir la musique et écouter la danse. Là, on est à peu près on est
bon
à ce niveau-là.
Pour cela.
Ouais, tout à fait.
Et l'autre distribution, c'est Léonore Bollack et Germain Louvet, que j'ai vu moi, qui s'en tirait très 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 bien aussi, soit dire. c'est pas rien non plus. Non, mais c'est vrai que selon le soir où l'on va voir ces programmes, on n'aura pas les mêmes interprètes. Donc, c'est pour ça que je donne les autres noms aussi, puisqu'on n'a pas vu ça le même soir. Sur cette sonatine, chorégraphiquement, Anna Segalevitch.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des très, très belles diagonales qui sont à la fois pleines de sensualité, en même temps très, très élégantes. C'est subtil tout le temps. Il y a des sorties de scène, ils sont dos à dos, encombrés comme ça, et ils sortent. Il y a une forme de tendresse aussi. Je pense à une propdane en arabesque de Myriam Oulbraham, où elle termine en enlaçant le torse de Mathias Eman. Enfin, oui, c'est tendre, c'est doux. Il y a du marivaudage. Ils se cherchent et ils s'amusent tout le temps. Et c'est vrai que les deux ont cet esprit-là. Ils ont cette spiritualité-là et cette délicatesse.
Ouais, pas vu la même chose, Philippe Mazel.
Si. Alors, en écoutant Anna, j'ai peut-être passé à côté d'une chose très très érotique, parce que c'est quand même assez. On garde ses distances.
Mais oui, c'est pudique, c'est une sensualité pudique, mais c'est ça, Balanchine, c'est la sensualité du bas de jambe, quoi.
J'avais l'impression que dos à dos et autres. Non, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a une vraie technique qui sous-tend tout cela. Il y a une scène incroyable. Ça passe très très vite, où en fait Mathias porte sa partenaire en mettant simplement un bras sous son aisselle comme ça. On a l'impression qu'il ne tient que par cela. En fait, il y a plus que cela, et c'est incroyable, parce qu'il y a une espèce de jeu d'équilibre et de déséquilibre qui est étonnant. Je le répète, il faut des danseurs habités pour réussir ce tour de passe-passe comme ça.
Est-ce que ça peut être mièvre, en fait, si c'est pas bien dansé, si c'est pas... Si c'est pas transcendé, enfin, ça peut paraître mièvre.
Mièvre, peut-être pas. Si c'est mal dansé, ça sera simplement ennuyeux.
Ennuyeux. Alors, le grand moment, dans la durée, mais pas seulement, de cette soirée, c'est ce quatuor de Brahms et Schoenberg pour piano et orchestre. Donc, quatre mouvements, forcément. Philippe Noisette. Donc, c'est là que Karl Lagerfeld a signé les décors, un petit peu, et les costumes, surtout.
Oui, je sais que vous aimez particulièrement les coups de griffe. Alors moi, je vais plutôt donner un coup de dé à coude, parce que je trouve ces costumes un peu trop sucrés à mon goût. Beaucoup de rayures, des damiers, du rose. J'imaginais, alors je me doute qu'on ne fait pas des tutus en tweed, comme dans la maison qui emploie Karl Lagerfeld. Là, je trouve que c'est un petit peu surligné, justement. Alors, on joue un peu sur l'esprit austro-hongrois, il y a un décor, je crois que c'est un ancien palais. C'est pas forcément la pièce que je préfère dans ce programme, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle permet de voir, effectivement, à nouveau des danseurs plutôt... qui font le job, pour certains. Il n'y a pas d'éblouissement, à part, évidemment,
à part Mathias Eman, quand même.
Oui, Mathias, qu'on
retrouve. À un moment donné, il a une variation quand même démonte, Mathias Eman.
Moi, j'ai vu Alice en avant, c'était pas mal non plus,
Vous étiez peut-être plus chanceux que moi. Ouais. C'était pas un soir. J'ai vu ce programme il y a quelques mois à l'Opéra Bastille. Mmh. C'est vrai que c'est bien de le revoir dans un cadre un petit peu plus resserré. C'est Balanchine avec tout ce qu'il a de technique, tout ce qu'il a de grâce mêlée avec une vraie présence. Ça demande ça. Ça demande aux danseurs d'être vraiment là à 100%. On peut pas se cacher dans Balanchine, même s'il y a beaucoup de monde sur scène, paradoxalement, on ne peut pas se cacher.
Anna Sikalevitch.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce Schoenberg Brahms, parce que je trouve qu'on voit vraiment toute la façon dont Balanchine exploite absolument tous les espaces et toutes les possibilités des espaces et les alternances duo, trio, quatuor, etc. Le groupe, les solos, ça se réinvente en permanence. On comprend pas d'où ça vient. Ça se décale, ça se remet ensemble. On est par moments à l'unisson, par moments en décalé. On revient ensemble, et je trouve que c'est absolument magnifique, quoi, tout simplement à regarder.
Bon, écoutez, qui est concis, c'est tant bien parce que le temps file. Pour en venir au dernier moment de cette soirée avec Stravinsky, ce concerto pour violon, Philippe Noisette.
Alors c'est ma pièce préférée, et c'est pas celle qui est le mieux dansée. Donc je me sens un petit peu entre deux. Il faut une espèce d'alchimie entre les couples de danseurs, hein. Quand vous dansez Balanchine, il ne suffit pas d'être là, il faut qu'il se passe quelque chose dans les regards. Oui, là on a vraiment l'impression que qu'Alice, puisque c'est elle qui dansait avec Karl Paquette, ne dansait pas tout à fait la même partition ou au même moment. Alors, c'est pas une histoire de tempo, mais c'est vraiment une histoire de présence. Pour Amandine Albisson et son partenaire, Stéphane Dullion, c'était un petit peu la même chose. Donc j'étais petit peu déçu de qu'on me gâche mon plaisir, parce que c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup. Une pièce sur du Stravinsky. Il y avait vraiment une histoire très très forte entre Stravinsky et Balanchine. Balanchine disait de Stravinsky, mais non, ce n'est pas de la musique cérébrale. Alors, je ne suis pas sûr que le public d'Université Ballet qui voyait ces pièces-là avec la musique de Stravinsky pensait la même chose. Mais j'aime beaucoup le rapport voilà, Balanchine-Stravinsky. Je trouve que c'est une pièce magnifique, c'est une pièce très moderne, d'une certaine façon. C'est une pièce qui permet de comprendre d'où vient Forsythe, par exemple. Ça, je trouve ça...
Ce qui n'est pas rien.
Oui, parce qu'on a vraiment tout le langage de Balanchine avec les poignets flex, avec les déhanchés, avec les pointes qui traînent sur le sol, comme ça, là aussi très sensuel. À mon sens, enfin, moi j'appelle ça de la sensualité. Hein, c'est, voilà, et moi j'ai aimé l'interprétation des quatre, autant Albisson, Bullion que Renavant Paquette, je les ai trouvés très bien, très complices. Donc voilà, ça m'a tout à fait convaincue.
Et l'autre distribution que j'ai vue, Marie-Agnès Gillot, Hugo Marchand, et puis Eleonora Abagnato et Audric Bézard. Pour cette soirée, Georges Balanchine, qui était aussi un hommage à Violette Verdi. Alors c'est dommage, c'est vrai que la sonatine n'est donnée que les 5, je crois, pour la représentation. Ce qui, moi, me paraît dommage, mais bon. On n'a pas parlé de l'orchestre, et il valait mieux, ça tombe bien, parce qu'on n'a plus le temps, parce que Kevin Rhodes, c'était vraiment catastrophique, moi, le soir où je l'ai vu. Je crois que c'était pas mieux pour vous, Anna Segalevitch. C'est quand même dommage, parce que c'est tellement important qu'il y ait un véritable orchestre qui soit là pour le ballet, et que quand il joue comme ça, bah oui, avec Philippe Jordan.
Le palais de cristal, c'est voilà, un Balanchine aussi.
C'était magnifique. Bon, là, c'était pas la même chose, on espère qu'ils vont s'améliorer, ça tombe bien, ils ont jusqu'au 15 novembre pour le faire. Et avant de conclure cette émission par un coup de fil, passé à Louis Arène, le jeu de la dispute, on rappelle d'abord le jeu de vendredi soir, Lucille Como.
L'artiste Georgia O'Keeffe est surtout connu pour avoir peint un motif. Quel est-il? Et la réponse est la fleur.
Alors ça, c'était rapide. On fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition Les Insoumis de l'art moderne jusqu'au 31 décembre au musée Menjiski à Paris.
Alors en 1947, Bernard Buffet réalise sa première exposition. Où peut-on la visiter?
Voilà, une bonne question. Si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute.
Ce soir, le coup de fil va à la Filature, scène nationale de Mulhouse. Louis Arène, bonsoir.
Bonsoir.
Vous mettez en scène avec votre collectif Moonstrom Théâtre Le Chien, la Nuit et le Couteau, un texte de Marius von Mayenburg. Ça se passe la nuit. Un personnage qui s'appelle M est seul dans une ville inconnue. Il a oublié jusqu'à sa propre identité. Surgit alors un homme qui le menace avec un couteau et s'ensuit une longue nuit de traque pendant laquelle M sera tour à tour proie et prédateur. Quand est-ce que vous avez découvert ce texte et qu'est-ce qui a accroché votre attention dedans?
J'ai découvert ce texte avec la compagnie, après notre premier spectacle qui était une création collective, donc avec une écriture qui partait totalement du plateau. Après cette expérience-là, on avait vraiment envie de s'atteler à une écriture contemporaine, et donc on s'échangeait régulièrement des textes, des pièces à lire, et puis on s'est arrêté sur Mayenburg, on a commencé à lire Le Moche, qui est une pièce un peu plus connue, et puis la suite du Moche, il y a eu cette pièce-là que j'ai lu, commencé à lire très tard dans la nuit, je crois vers minuit, puis que j'ai pas pu lâcher. Je suis allé jusqu'au bout de cette nuit théâtrale aussi, et c'était une évidence assez forte, ce texte-là.
Quand on lit quelques extraits de la pièce, on a l'impression qu'il y a quelque chose là de très cinématographique, et puis le nom M, évidemment, n'y est pas pour rien. Est-ce que vous aviez des références de ce type-là en tête?
Oui, c'est vrai que la lecture de la pièce a des images très fortes qui apparaissent. Il y a évidemment les premiers films noirs, il y a aussi un univers à la Lynch qui je trouve très très présent. Et puis il y a d'autres références littéraires comme Kafka bien évidemment, pas seulement par le procès et le château avec le personnage de K qui lui aussi porte seulement une seule lettre. Mais aussi par les parcours de personnages qui traversent des mondes dont il ne connaît pas les codes et par lesquels il apprend et il évolue. De tableau en tableau, on a des images fulgurantes qui nous sautent au visage, et c'est aussi une des raisons qui a fait qu'on s'est arrêté sur ce texte-là.
Vous avez choisi un dispositif qui est bifrontal, c'est-à-dire que les spectateurs sont placés de part et d'autre de la scène, oui. Ils sont autour de la scène. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans le texte, ce dispositif-là, Louis Arène ?
Avant tout, c'est le parcours d'un personnage, c'est une sorte de chemin initiatique, c'est un personnage qui s'enfonce, la pièce commence dans une rue, une sorte de cul-de-sac, et puis le personnage va s'enfoncer de plus en plus dans cette ville, dans l'obscurité de cette ville, et ce bifrontal, cette route qui est entre les deux gradins de spectateurs symbolise bien évidemment le chemin de ce personnage, et puis c'est également une façon de créer davantage de tension dans la pièce on n'est jamais en présence de plus de deux ou trois personnages, du coup on arrive à créer des lignes de tension assez puissantes avec ce dispositif. Ça permet également, avec le travail qu'on fait sur le masque, car les personnages, les acteurs du spectacle portent des masques, ça permet une proximité, une immersion plus importante pour les spectateurs. Et puis ça crée, les spectateurs font eux-mêmes partie prenante du décor. Ça crée toute cette sensation d'oppression qui est très présente dans la pièce. Et puis la pièce est également une réflexion sur l'altérité, sur ce qui nous constitue en tant qu'humains. Et je trouvais que c'est aussi le lieu du théâtre, nous mettre face à nous-mêmes pour en apprendre un peu plus. Et je trouvais que le dispositif bifrontal pour ça était assez, assez puissant.
Vous le disiez, les comédiens portent des masques. Ce n'est pas la première fois dans vos spectacles que vous mettez en place ce dispositif-là. Ce sont des masques assez neutres. J'ai pu voir quelques images. Qu'est-ce que ça vous permet de faire ou qu'est-ce que ça vous permet au contraire de cacher, Louis Arène ?
Oui, exactement. Il y a montrer et puis il y a cacher. Effectivement, ça permet dans un premier temps pour moi de créer évidemment un univers esthétique assez fort qui éloigne de la réalité, qui nous transporte dans un monde presque futuriste ou fantastique. On est face à des humains, mais pas tout à fait. On est face à des créatures étranges qui sont plus vraiment tout à fait des humains. Et ça permet également une lecture dramaturgique de la pièce qui fait que ces masques sont, comme vous le disiez, assez neutres. Ils se ressemblent énormément les uns aux autres. Parfois, on confond les personnages. On ne sait plus exactement à qui on a affaire. Et ça crée une sensation comme ça de mimétisme. Le masque peut devenir également le symbole de l'oppression et de la pensée unique dont on va devoir se libérer. M, le personnage principal, au fur et à mesure de la pièce, voilà, le masque social également, voilà.
Merci beaucoup, Louis Arène. Le chien, la nuit et le couteau, d'après Marius von Mayenburg, sera créé du 3 au 5 novembre prochain à la Filature à Mulhouse. Ce sera le lancement du festival Scène d'automne en Alsace. Et puis, il y aura une tournée. Je cite quelques dates. On aura notamment le 1er et 2 décembre à Cergy-Pontoise et puis du 24 au 28 janvier à Strasbourg. Merci, à bientôt.
Et ainsi s'achève la dispute ce soir. Merci à vous, Anna Sigalevitch, Lucille Comeau et Philippe Noisette d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions, un site sur lequel vous pouvez également nous écrire. Merci à l'équipe qui prépare ces émissions. Virginie Le Duo, Flora Isidore, Josué Morel et Boris Pinault. Ce soir, un duo d'Alexandre. À la réalisation, Alexandre Fougeron. À la prise de son, Alexandre Dang. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma. Je serai en compagnie, quelle chance, de Corinne Rondeau, Charlotte Garçon et Antoine Guillot sur le Lucille Comeau. À notre affiche, le Tekel de Todd Solondz, moi, Daniel Black de Ken Loach et Ta-Hang de Wang Bing. C'est le programme de demain. D'ici là, d'autres programmes se poursuivent sur France Culture, notamment à 22h15 avec les discussions du soir. Mais dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction.